Radio 1, premier sur l'info.
Jeudi 6 août, le journal de la mi-journée avec Samia Stambouli, le retour. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. Les syndicats ni le patronat convaincus par la réunion tripartite avec le pays concernant la zone franche du vaste chantier du Mahana Beach. Anticonstitutionnel pour les syndicats, impact très limité pour le patronat. En tout cas, le projet de loi a été adopté en Conseil des ministres ce matin. Moréa envahie par des fourmis de feu, la commune a lancé l'offensive. Des réunions publiques et des pulvérisations sont prévues. Elles seront étalées sur 2 ans. La 22e saga s'est achevée dimanche. On reviendra sur cet événement avec son fondateur, Doudou Cornette de Saint-Cyr. Bonjour.
Bonjour.
Il sera mon invité. À tout de suite.
Alors, les syndicats ne veulent pas du SMIC à 120 000 francs pour les ouvriers du futur Mahana Beach.
Tripartite regroupant pays, syndicats de salariés et patronat a eu lieu hier. Ils ont discuté de cette mesure. Le gouvernement propose en effet sur 3 ans de ramener dans cette zone le SMIC à 120 000 francs par mois, baisser de 20% la rémunération des cadres moyens et de passer le temps de travail de 39 heures à 40 heures avec également la suppression du 13e mois. Ces mesures ne s'adresseront qu'aux nouveaux emplois créés dans cette zone. Objectif pour le gouvernement, attirer les investisseurs. Un dispositif qui n'a pas convaincu les syndicats présents autour de la table. Roxane Merlot était présente à la sortie de la réunion. Reportage.
Des salariés, ce projet est anticonstitutionnel. Pour Yves Le Gros, trésorier à Atia Imoua, il ne peut pas y avoir 2 SMIC différenciés. Les syndicats proposent plutôt de créer un statut qui serait entre le contrat auto-entrepreneur et le SMIC.
Nous avons fait une proposition qui consiste à accompagner effectivement le projet, mais dans le cadre d'une insertion professionnelle et d'une formation professionnelle, c'est-à-dire un espèce de contrat en alternance, pour permettre effectivement à des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont pas la formation nécessaire de pouvoir accéder à des emplois, mais ça doit être limité dans le temps et ça doit être limité par entreprise aussi. Disons que nous sommes d'accord pour lancer le Mahana Beach, mais pas dans les conditions dans lesquelles ils nous les proposent.
Les patrons, quant à eux, sont dubitatifs et craignent une insécurité juridique par rapport à ce texte. Ils préfèrent donc attendre sa modification. Mais pour Gaston Floss, ces nouvelles réglementations sont indispensables pour ouvrir ce grand chantier.
Si nous n'ouvrons pas ces grands projets, si nous n'entamons pas la construction de Mahana Beach, si nous n'ouvrons pas cette forme à quoi colle, nous sommes foutus. Or, je veux me battre pour que mon pays marche.
Gaston Floss proposera donc ses nouvelles réglementations ce mercredi matin au Conseil des ministres. Le texte passera ensuite par le CESC avant d'être proposé à l'Assemblée pour adoption.
Et je le disais en titre, ce texte a été adopté en Conseil des ministres qui s'est tenu ce matin. Côté patronat, le MEDEF n'est pas convaincu par cette mesure. C'est ce que nous expliquait hier son président, quelques heures avant la réunion tripartite. Pour Olivier Cressman, ce dispositif d'urgence n'aura qu'un impact très limité. Pour lui, l'urgence est ailleurs. On l'écoute.
On reste très dubitatif sur la réalité de l'effet que ça aura. D'abord, première chose, c'est des entreprises polynésiennes qui ont des gens et compétents et disponibles pour mener des chantiers. Ce sont des gens qui vont rester sur le dispositif de rémunération qu'ils ont déjà aujourd'hui à speed normal. Donc on est à peu près certain qu'on va être sur quelque chose qui va avoir un effet à la marge et qui ne sera pas d'un effet aussi important que ceux qui pourraient être recherchés. C'est quelque chose qui va en plus être compliqué parce que si les entreprises locales elles vont se retrouver des gens qui vont être dans certaines conditions salariales, d'autres dans d'autres conditions salariales, tout ça nous paraît bien compliqué et surtout pas forcément aussi impactant que ça sur le coup. C'est un dispositif, c'est une façon par laquelle pouvoir répondre à l'attente du président sur une offre à faire aux investisseurs d'un coût de travail moindre. Au niveau du MEDEF, l'important pour nous, c'est pas ça. C'est la révision du code du travail. C'est la réflexion sur la compétitivité des entreprises. C'est une réflexion sur le niveau du SMIC, comme on l'a déjà exprimé. Mais réfléchir sur le SMIC, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça d'un trait de plume. C'est une vraie réflexion qu'il faut mener aussi par rapport au coût de la vie pour que chacun puisse vivre dignement dans ce pays. C'est tout ça qui rentre en ligne de compte.
Sachez que la traditionnelle conférence de presse post-Conseil des ministres se tient en ce moment même. Sujet du jour, vous vous en doutez, ce nouveau dispositif et c'est Gaston Floss qui répondra aux questions des journalistes. On en reparle donc dans nos prochaines éditions.
L'île sœur déclare la guerre à la fourmi de feu.
Après plusieurs mois de campagne de repérage qui ont permis la localisation de 4 colonies de fourmis de feu, la commune passe à l'offensive. Les 13 hectares répartis sur Afareitu, Atiatem et Veirae devraient être le lieu du prochain combat que mènera la mairie avec l'aide de la direction de l'environnement. Marie Fourdriniez est consultante à la Diren et s'occupe du programme Espèces envahissantes. Elle nous en dit plus sur la façon dont cette guerre va se dérouler et sur la façon de réagir en cas d'invasion. Elle est interrogée par Vaïté Ouralie Pambrin.
Il y a une partie traitement. Sur Moréa, on a décidé de passer par une entreprise privée pour être sûr que du coup le traitement serait fait pendant toute la durée nécessaire, c'est-à-dire pendant 1 à 2 ans minimum. C'est un traitement qui va avoir lieu toutes les 6 à 8 semaines sur toutes les surfaces impactées à Moréa.
Alors quels sont les bons gestes à avoir pour éviter la propagation de la fourmi de feu?
Bah déjà, le premier geste à avoir, c'est de savoir si on a la fourmi chez soi. À ce moment-là, il faudra faire très attention de ne pas la déplacer, en fait, de ne pas déplacer ce qui pourrait contenir une reine. Donc un pot de fleurs ou des encombrants qui seraient restés sur un terrain pendant longtemps, ou des déchets végétaux, des déchets verts. Hein. Quand on est infesté par la fourmi, il faut surtout pas aller jeter ces déchets verts ailleurs. C'est surtout ça qu'il faut faire attention, de ne pas sortir de produits ou d'objets qui pourraient avoir des fourmis.
Des réunions publiques devraient être organisées par le pays et la commune. Rappelons que la fourmi de feu cause des piqûres violentes qui peuvent provoquer des allergies chez les bébés et les personnes âgées. À force, elles peuvent également rendre les animaux aveugles.
Mororo Aetato, solidaire des victimes nucléaires au Japon.
L'association invite la population à se joindre à l'hommage qui sera rendu cet après-midi aux milliers de victimes des bombardements de Hiroshima et Nagasaki. Une cérémonie sera organisée à 16h au mémorial dédié aux victimes des essais nucléaires en Polynésie française, en bas de l'avenue Puvana à Aopa.
Et puis les vacances, c'est bientôt fini, bientôt place à la rentrée scolaire.
Et les enseignants n'ont plus qu'une semaine pour profiter des vacances. Leur pré-rentrée est prévue pour lundi prochain. Au total, ce sont 240 nouveaux professeurs venant de métropole qui sont attendus cette année. Du côté des élèves, les primaires devront reprendre leur cartable le 18 août. Les collèges et lycées, quant à eux, pourront se retrouver officiellement le 13 août. Mais attention, certains établissements ont décidé d'échelonner leur rentrée. Plus de détails à venir sur radio1.pf et dans nos prochaines éditions.
Nous accueillons donc notre invité, Doudou Cornette de Saint-Cyr.
Bonjour Doudou.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de l'opération Saga, qu'on ne présente plus. C'était la 22e édition cette année. Vous avez mis les voiles le 22 juin dernier. Votre périple jusque Wainé s'est achevé dimanche. Alors, première question, comment s'est passée cette nouvelle édition?
Alors, nous avons vraiment été bénis. C'était une saga absolument merveilleuse, à plus pour plein de raisons finalement. D'abord parce que nous avons été accueillis par cette grande famille qui est la population d'Ouainé, hein, que l'on connaît bien. Ils sont absolument adorables. On s'est vraiment senti en famille chez eux. Et donc c'était vraiment des retrouvailles puisque c'est la 4e édition. Alors derrière ça, nous avons eu un temps exceptionnel, hein, absolument pas de maramou, quasiment pas de pluie et des conditions parfaites pour nos petits chéris.
Alors, en chiffres, la saga en 22 ans, c'est 14 000 enfants accueillis, 1000 familles d'accueil. Vous le disiez dans une interview l'an passé accordée à nos confrères de La Dépêche, pour élever un enfant, il lui faut un village. Chaque année, on reconstitue ce petit village. Est-ce que c'est ça, selon vous, qui fait la force de saga, cet esprit village?
Ah oui, parce que effectivement, hein, on se rend bien compte qu'éduquer un enfant, c'est pas seulement l'affaire de la famille, c'est un tout. Et c'est vrai que chaque année, on reconstitue ce tout, hein, au travers des familles d'accueil, au travers des travailleurs sociaux, au travers de l'équipe médicale, au travers des moniteurs, des aides-moniteurs, de tout un environnement humain qui est autour et qui convient parfaitement aux enfants. D'ailleurs, on le voit dans leur regard et dans le résultat de ces activités, c'est que ces enfants s'épanouissent pleinement, grandissent et puis sont émerveillés. Voilà. Donc, les enfants repartent un petit peu difficilement, c'est vrai, tristes, nous aussi, mais enfin, c'est aussi un petit peu la vie.
Alors, cette opération se finance, il vous faut de l'argent. En juillet dernier, un pétrolier de la place a lancé l'opération J'arrondis ma facture. Combien de temps ça vous prend pour monter ce genre de partenariat?
Alors, ce partenariat nous avait été proposé par un pétrolier de la place. C'est sa première édition, donc c'est nous qui en profitons. Pour l'instant, c'est la surprise. Je ne sais pas quel sera le montant de ce que nous allons recevoir, mais on espère beaucoup, bien sûr, parce que nous avons vraiment besoin de beaucoup d'argent. Et cette opération, bon, c'est plutôt eux qui vont vous répondre à cette question. Mais en termes de partenariat, en tous les cas, nos dossiers, on commence à les monter dès le mois de janvier. C'est-à-dire qu'on est quasiment tout le temps dans la saga, finalement. Une partie de l'école de vol d'Arroué est consacrée entièrement et dédiée entièrement à cette action. Parce que entre le moment où on prépare nos dossiers et au moment où on le fait, la saga, il se passe déjà 7 mois. Et puis ensuite, il y a le suivi à Noël. Et puis derrière, il y a les bilans. Et lorsqu'on présente nos bilans, c'est-à-dire au mois de mars, on est déjà dans la prochaine saga. Donc on y est à 100%.
Justement, sur le budget, ça coûte combien à peu près
Alors, cette opération était estimée à 42 millions environ. On espère avoir un petit peu moins dépensé. En tous les cas, on n'a pas le choix parce que on n'est pas sûr de toucher toutes nos subventions. Il nous manque encore beaucoup d'argent, ça on peut le dire. Mais bon, on reste confiant parce que je n'ai peut-être pas eu le temps de voir tout le monde, de ressolliciter tout le monde, tous ceux qui cette année ne m'ont pas encore aidé. Et on attend aussi, bien sûr, ce soutien du pays qu'on a déjà en partie. Il y a quelques conventions qui ont été signées. On attend les autres avec beaucoup d'impatience. Mais voilà, et puis l'État était aussi présent. Vous savez, la saga aujourd'hui, c'est vraiment l'affaire de tous. Et heureusement que nous répartissons nos demandes un petit peu partout. Et nous avons même sollicité la Fondation de France cette année. Nous espérons une réponse. Alors ça, c'est aussi, bien sûr, le point d'interrogation.
Vous le disiez tout à l'heure, la station de la place est venue vers vous.
Oui.
Et dans le même temps, vous exercez un fort lobby. Est-ce que les entreprises jouent le jeu en général?
Oui, dans la mesure de leurs moyens, bien sûr, elles le font. Et je dois dire que je dois toutes les remercier. Hein. Je ne peux pas les citer toutes, bien sûr. Mais en tous les cas, elles sont franchement très sympathiques avec nous, très solidaires. Et elles font du mieux qu'elles peuvent.
D'accord. Vous me disiez tout à l'heure en rantaine que vous étiez en train de décharger les bateaux, etc. Donc est-ce que vous avez déjà des idées, un défi à relever pour l'édition de l'année prochaine?
Oui, on pense repartir dans les îles sous le vent. Hein. Alors, tout le monde me pose la question, bien sûr, c'est la question essentielle. Et alors, ça sera peut-être Taha, mais ou peut-être Riatea. C'est pas encore définitif, bien sûr, mais ça fait partie de nos possibilités.
D'accord, merci beaucoup, Doudou, d'avoir été notre invité. Merci
Radio One de m'avoir invité.
Avec plaisir.